Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Picture of our time has ever unleashed shock spectacle of such scope and realism as up from the depths of prehistoric mystery rages Virgo.
Au sommaire aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, une spéciale SF fantastique et horreur. Vous avez compris, ce sont des genres qu'on aime beaucoup. Chez Culture Prohibée. Alors on va d'abord parler de Gorgo, un film de Eugène Lourier qui est sorti dans une très belle copie chez BQHL, un film de 61. On va parler aussi de La Tour du Diable de Jim O'Connolly, un film de 72, lui qui est sorti chez Rimini Éditions. Je vous ferai un petit topo rapide sur un coffret qui vient d'arriver de chez Carlotta Film, qui réunit Rage de David Cronenberg, un film de 77, et surtout l'événement Fast Company, un film de 78. Autre film qui va nous replonger d'ailleurs, en tout cas pour Thomas et moi, dans notre enfance, c'est Darl Invincible de Don Coscarelli, un film de 82, lui qui sort chez ESC. Chez Rimini Édition, on va parler d'un des précurseurs de la folk horror qui s'appelle Les Yeux de Feu de Avery Crowns, un film de 1983. On causera aussi d'un film de 2003 qui s'appelle Monster Man de Michael Davis. Alors ça, c'est chez BQHL. Et on terminera chez ESC avec la série horrifique qui fait des malheurs en salle ces dernières années. Et pourtant, je pense que ce n'était pas prévu comme ça au programme au départ, qui est devenue une véritable série culte. C'est la série des Terrifier. On va parler donc de Terrifier 3 de Damien Léon, qui est sorti en 2024 et qui là est disponible chez ESC. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Lucie Mautier, Timothée Tricard, Jean-Pierre Vasseur et François Villa pour leur aide sur cette émission. Pour causer SF fantastique et horreur, je suis aujourd'hui accompagné de mes créatures préférées. Hein. Voilà, nous sommes dans une émission terrifiante et dans le studio, il y a donc une bête noire de Compiègne, archéologue animal, en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimératech disponible sur YouTube. Bonjour Damien Demé.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, il est hirsute, il est poilu, il est velu, il est effrayant. C'est le loup-garou Picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglantes chroniques pour RCA. Salut Thomas Roland.
Salut Damien, salut Jérôme et bien évidemment, salut à toutes.
Eh bien mon cher Thomas, puisque tu as la parole, tu vas la garder, tu vas nous parler d'un film, de celui qui fut un immense décorateur du cinéma d'ailleurs, hein, et qui a tourné en fin de compte très peu de films. Un film qui je crois fait partie des films que tu aimes bien, car tu as gardé ton âme d'enfant. Un film avec une énorme créature, un film d'Eugène Lourier, un film de 61 qui sort chez BQHL dans une superbe copie. Un film qui s'appelle
Gorgo. Alors souvenez-vous, hein, on disait du Titanic qu'il était insubmersible, hein, mais il a suffi qu'il croise la route d'un gros glaçon pour qu'il se retrouve par le fond, coupé en deux, entraînant avec lui plusieurs représentants de l'espèce humaine. À l'époque, c'était la révolution industrielle qui battait son plein, et la nature donc s'est crue intéressante de se manifester pour rappeler qui était le plus fort. Avec Gorgo, son dernier film en tant que réalisateur, Eugène Lourier ne raconte pas autre chose. Et aujourd'hui, il acquiert une résonance particulière. L'histoire, c'est des chasseurs d'épaves qui sont particulièrement avides et qui sont en quête de trésors perdus. Ils capturent un lézard géant au large des côtes irlandaises. En faisant fi de tout esprit scientifique, ils préfèrent le vendre à un cirque londonien, ne voyant que l'aspect lucratif de cette découverte. Évidemment, quand on croise pas des gros lézards géants tous les jours. Hein. Seulement, la bête n'est qu'un bébé et la mère, évidemment, la mère va venir le chercher. Hein. Depuis Godzilla, que réalise Ishiro Honda en 1954, les lézards géants ont la côte sous le prétexte à des visions d'apocalypse qu'aujourd'hui on désigne sous l'appellation de destruction porn, hein, dont Michael Bay et Roland Emmerich sont des adeptes et des ambassadeurs particulièrement actifs. Et pour en souligner l'héritage, Gorgo, l'héritage de Godzilla, j'entends, hein, pour en souligner l'héritage de Godzilla, Gorgo devait d'abord se dérouler au Japon pour finalement mettre Londres à feu et à sang. Et ainsi, une cousine irlandaise du lézard japonais, donc qui vient de l'Ouest, détruit sans aucune logique géographique Tower Bridge avant de s'en prendre à Big Ben. Quand on connaît un peu Londres, c'est quand même assez... c'est pas très logique. Et il faut l'avouer, hein, les faux raccords sont nombreux. À un moment, il y a des avions de chasse qui décollent, il fait jour, alors que l'action se déroule de nuit. Il y a plein de faux raccords comme ça. Il y a des effets spéciaux qui sont un peu archaïques. Mais moi, je trouve que ça participe un peu aussi au charme du film, qui accuse quand même une esthétique très ancrée dans les années 60. Gorgo fait office d'une série B bien sympathique, malgré quelques aspects qui, aujourd'hui, paraissent bien anachroniques. Hein, certains font remarquer que les femmes sont quasiment absentes du film, avec quasiment peu de dialogue. Mais j'y répondrai que le personnage principal, celui qui se montre bien supérieur à tous les autres, eh bien, c'est la mère du petit, hein. C'est la femme. Et l'armée aura beau essayer de bombarder le monstre, rien n'y fera. Elle ira chercher son petit quand même. Ils repartiront comme ça, hein, tranquille, pépère. Et là, le film, pour moi, de façon tout à fait inconsciente, hein, je ne pense pas que Jeanne Lourier et son équipe y ont pensé, hein, acquiert un propos des plus modernes. L'impuissance des militaires et de leur machine à stopper cette manifestation de la nature dans ce qu'elle peut avoir de plus destructrice montre que la technologie ne nous sauvera pas.
Mon cher Thomas, mais sais-tu pourquoi ? Parce que tu l'as abordé. Les bombes ne font rien à nos deux créatures.
Parce que c'est écrit dans le scénario ?
Alors certes, c'est écrit dans le scénario, mais sais-tu pourquoi c'est écrit dans le scénario ? Eh bien non, tu ne sais pas. Et ça, on l'apprend dans les excellents bonus de cette édition. Alors, il y a un documentaire consacré au making-of du film. Il y a un documentaire sur la Gorgomania, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que Gorgo, ça a été un vrai film culte. Et il y a Stephen Bissett, qui est célèbre pour avoir dessiné La créature du marais, Swamp Thing d'Alan Moore, qui intervient dans les bonus et qui nous ressort toute sa collection, parce que c'était un film fétiche de son enfance. Il y a eu des comics, il y a eu plein de produits dérivés. En fait, Gorgo, c'est vraiment un film qui a cartonné, en fait, à l'époque. Ce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, mais tellement le film a un côté naïf, mais il a cartonné. Non, en fait, la raison qui explique pourquoi la créature ne meurt pas ni sa maman, c'est tout simplement parce que c'est la fille du réalisateur, de Jeanne Lourier, qui était très, très jeune, et qui lui dit « Papa, tous les films que tu as fait, parce que bon, il y a le Colosse de New York, mais sinon, c'est que des films avec des créatures gigantesques. On peut dire que c'est un spécialiste du kaiju, même s'il n'est pas japonais. Et elle meurt tout à la fin, et ça me rend très triste. Je veux pas que la créature meure dans ton prochain film. » Et du coup, Eugène Laurier, il change de scénario. Et la créature ne meurt pas, son enfant non plus. Voilà. Et ça, on l'apprend grâce à un bonus signé de l'intarissable Gilles Panceau.
J'aime bien les monstres en maquette. Enfin, en tout cas, ceux qui ne sont pas faits en effets spéciaux, il y a toujours un petit truc intéressant. Et la présentation de Gorgo, elle en fait... partie, c'est intéressant parce que comme tu l'as évoqué Jérôme, il est déjà, notre réalisateur Eugène Lourier, il est déjà spécialiste des films de monstres, son tout premier c'est Le Monstre des Temps Perdus, donc il s'y est déjà entraîné. J'aime bien les chasseurs de trésors qu'on a dedans qui sont là que pour l'argent, et j'aime bien ce côté un peu héros antipathique parce qu'ils sont pas là pour faire ami-ami, leur objectif c'est d'avoir un maximum de thunes et ils vont tout miser là-dessus. De base ils viennent pour des trésors, ils trouvent un monstre, ils disent qu'ils peuvent le vendre et se faire de l'argent dessus. Ils y vont. Y a un petit côté aussi Jules Verne que j'apprécie justement avec, je sais pas si c'est lié à 20 milieux sous les mers, pas à cause du Nautilus parce qu'ils n'ont pas un vaisseau incroyable, mais plus justement cette découverte d'une vie marine autre avec les trésors qu'on retrouve sous l'eau. Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est que on a beaucoup parlé de l'armée qui est inefficace. Il y a autre chose qui est inefficace, et ça c'est le petit bonus de l'histoire, c'est les scientifiques qui participent aux propos modernes, qui du début à la fin disent c'est une mauvaise idée de ramener un monstre énorme en plein milieu de Londres. Qu'est-ce qu'on fait? On le ramène. Derrière, ils disent attention, on a calculé sa taille, ça doit être un petit. Il y a la mer qui va se pointer. Tout le monde dit c'est bon, on peut s'en occuper. Il arrive, ça fonctionne pas. Donc durant tout le film, on a des scientifiques qui disent attention, une catastrophe qui arrive. Ils sont pas écoutés. C'est pas une métaphore du GIEC, mais on n'est pas très loin. Hein.
J'ajouterais que ça a aussi un petit côté Robert Louis Stevenson, parce qu'il y a un personnage d'enfant aussi qui accompagne ce périple en bateau, qui n'est pas sans évoquer l'île au trésor, par exemple, hein, de Robert Louis Stevenson. Et puis, il y a, si vous n'en avez pas parlé, il y a ce côté technicolor, là, très beau, ces couleurs flamboyantes, ces transparences. Laurier ne voulait pas refaire un film de monstre spécialement. Il a accepté, en fait, ce qu'on apprend aussi dans les bonus grâce à Gilles Panceau, il a accepté parce que c'était l'occasion pour lui de se frotter à des nouvelles techniques. On rappelle qu'il avait travaillé avec Harryhausen sur la stop motion, tout ça. Bon, personnellement, je préfère la poésie de la stop motion au type en gros costume, mais ça a son charme aussi, j'avoue. Donc ça s'appelle Gorgo, c'est signé Eugène Laurier et c'est disponible chez BQHL.
Can you hear me, Penny? You are on the island, Penny. You are on Snape Island. Penny. Can you hear me, Penny? Penny?
Vous écoutez Culture Prohibée. De BQHL, je vais passer à Rimini Édition pour parler d'un autre film, c'est pareil, un peu un précurseur aussi, un film de Jim O'Connolly, alors un film d'un réalisateur qui a tâté aussi de la stop motion à travers un petit bijou méconnu qui s'appelle La Vallée de Gwangi. Je vais bien sûr parler de Jim O'Connolly et de La Tour du Diable. La Tour du Diable, mon cher Damien, qui peut être vu comme presque un précurseur du slasher, hein. Quelque chose d'assez unique. En tout cas, moi, j'ai une chose est sûre, les copains, ça, je peux vous l'assurer. Joe D'Amato, avant de faire Anthropophagus, il l'avait vu plusieurs fois, ça, c'est sûr et certain. Voilà.
On retrouve des liens et c'est vrai. Alors, La Tour du Diable, ça. Déjà, l'introduction, elle est très très cool. On arrive dans la brume sur cette île avec un phare en plein milieu. On suit deux marins. C'est une introduction, je trouve, très percutante. Ils marchent sur l'île et ils se rendent compte que sur l'île, il y a des jeunes qui sont fait massacrer. Et une partie de l'intrigue va être racontée en flashback et le reste, ça va être un petit groupe qui va retourner sur l'île. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les gens qui ont survécu, il y en a une qui s'appelle Penny, qui est la seule survivante et qui, lorsqu'elle est retrouvée, est dans un état second. Donc, on suppose que c'est elle qui a commis les crimes, même si c'est très bizarre. Mais surtout, derrière ça, on a des gens qui expliquent que l'un des jeunes s'est fait tuer par une lance phénicienne. C'est ultra bizarre parce qu'ils sont en Écosse. Donc, je sais pas si vous arrivez plus ou moins à imaginer la Phénicie, mais on est plus ou moins en mer Méditerranée et se retrouver en Écosse, faut vraiment y aller au niveau du voyage. Et donc, il y a un petit groupe qui se monte, une équipe entre guillemets de scientifiques, et ils sont accompagnés d'un détective qui, lui, est certain que Penny n'a pas fait le coup. Ils y vont aussi avec un marin et un fils d'un autre marin. Et sur cette île, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer ? Majoritairement, la mort. Alors, il y a un gros point faible, à mes yeux, du film, c'est qu'il y a un abus sur les cris et sur les montages dans les scènes de flashback du meurtre. Ça, c'est très court, mais une minute de cri, c'est très vite insupportable. Je passe le fait que les archéologues, c'est des pilleurs. Gros point fort, le décor. J'adore ce phare au milieu de la nuit. En fait, on se retrouve dans une ambiance gothique, mais un gothique marin qui est très agréable. L'intrigue est très étrange. Tout simplement, de base, l'histoire de ce trésor sur une île perdue en Écosse. Et plus ça va avancer, plus ça va devenir étrange en allant vers un dénouement assez proche du film de mutants, film de redneck plutôt. Et c'est quelque chose qui est extrêmement cool. Je trouve que par contre, son introduction, c'est vraiment son point le plus fort parce qu'il entre vraiment dans le sujet. Mais la façon dont ils se baladent dans l'île et surtout à un moment où ils vont se retrouver dans les entrailles de l'île, je trouve ça... Je me laisse guider par ce mystère qui enveloppe finalement, comme la brume, ce phare.
Je constate que Damien aime les monstres en caoutchouc et il aime les maquettes. Il aime le cinéma à l'ancienne, notre Damien. Mon cher Thomas, je suppose que tu es comme moi. Tu as un peu grandi avec ce film qui était un hit de Vidéoclub avec une superbe jaquette Hollywood Vidéo signée Melky qui nous a quand même tous fait beaucoup fantasmer.
La Tour du Diable, c'est un peu le chaînon manquant entre Psychose et Halloween. Hein, y a quelque chose comme ça dans le film, j'en dirai pas plus, hein, je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas vu. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce film, comme un peu pour les mêmes raisons que Damien. C'est-à-dire ce décor, ce phare isolé au milieu de l'océan. J'aime beaucoup. Effectivement, il y a un petit côté gothique, la brume, la nuit. Je trouve ça vraiment bien. Et en plus, je trouve que la mise en scène, pour un film de 72, je trouve qu'elle est assez moderne. Parce qu'il n'y a quasiment pas de jumpscares, en fait. Et il y a très peu de musique dans les scènes d'angoisse. Et je trouve que le film, là, il fonctionne très bien. Il est vraiment... Je trouve que oui, il fait un peu peur. Et puis il est aussi un petit peu gore, hein, quelque part. Hein. Et il y a des petits passages un peu coquins. Et quand même, il y a quand même un mec qui se fait faire une fellation. C'est plus suggéré qu'autre chose, mais dans une telle production, on s'y attend pas, quoi. C'est quand même quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Et c'est un film, que je trouve vraiment assez moderne et qui tient parfaitement la route encore aujourd'hui. Un petit slasher. C'est vrai, oui, t'as trouvé le terme juste. Slasher, un peu le film de Redneck, etc. C'est tout à fait ça.
Et puis, il y a un petit côté film de maison hantée aussi, dans ce... Voilà, qui est... Les portes claquent, on entend des bruits, on a peur. Enfin, c'est un film très efficace. Moi, j'aime beaucoup ce film, alors qui n'est pas sans défaut, mais c'est une série B horrifique, vraiment modeste, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, on respecte le spectateur, on aime son spectateur, on fait de son mieux. Jim O'Connolly, c'est vraiment un réalisateur réhabilité, c'est un réalisateur britannique. Il a signé, il n'en est pas à ses premiers coups, hein. Il a signé aussi un film qui s'appelle Le Cercle de Sang, qui est un proto-giallo qui vient à la fin des années 60, au moment où le giallo s'est pas encore imposé, et qui est vraiment un giallo. Enfin, on le revoit aujourd'hui, c'est vraiment un giallo britannique, quoi, voilà. Mais c'est un vrai giallo. Et il sentait bien les coups, là. Et là, on est en 72, et c'est vraiment la mise en scène qui fait toute la différence, hein, dans ce film-là, hein, parce qu'on sent bien que le réalisateur, il a du métier et qu'il voit bien que son scénar casse pas trois pattes à un canard avec ses flashbacks. C'est quand même en plus compliqué, hein, illustrer ses flashbacks. Il y a deux narrations. Il y a à la fois la narration d'une survivante à une série de crimes sur une île qui est ramenée à la civilisation. Alors en plus, tu dis, c'est un peu coquin. Les femmes sont souvent déshabillées. En plus, il y a même un érotisme, et un érotisme avec des femmes plus âgé, enfin, il y a des trucs. C'est vraiment moderne, en fait. Le film ressemble plus à ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Alors, bien sûr, ça a le cachet de son époque, mais ça, on a l'impression que c'est une sorte de film des années 60 perverti par les années 70 qui arrivent, parce qu'il y a un côté psychédélique aussi dans le film, hein, avec un côté presque psychotropique, j'ai envie de dire, dans la manière dont c'est présenté, parce que le film, par bribes, par flashback, reconstitue une intrigue du passé qui est celle qu'a vécu cette unique survivante. Mais cette unique survivante, elle vit sa vie, j'ai envie de dire, elle vit son... elle subit dans une clinique spécialisée, on la torture un peu quelque part pour que les flashbacks permettent de reconstituer les événements qui ont amené au massacre sur l'île. Et en même temps, de l'autre côté, il y a cette équipe qui va sur l'île pour essayer d'y trouver quelque chose. Voilà. Donc, et tout ça mis en parallèle, ça fonctionne vraiment bien et c'est vraiment efficace. L'esthétique est très belle. Donc, franchement, non. Puis je vous ai dit, hein, les bonus, c'est pareil, très complet. Donc la Tour du Diable de Jim O'Connolly, c'est un film de 72 qui est sorti chez Rimini Édition. Alors il était sorti chez Artus Film, mais là la copie est encore retravaillée. Donc franchement, non, ça mérite de s'y intéresser. Écoutez Culture Prohibée spécial SF, fantastique et horreur. Je vais vous parler d'un film aussi qui est sorti récemment chez un éditeur qu'on aime bien, The Extasio Film, hein, qui s'appelait Rage, de David Cronenberg. Alors là, il ressort chez Carlotta, mais dans une copie restaurée. Et comment Carlotta a la bonne idée de l'accompagner, en fait, du dernier film de Cronenberg qui restait inédit, en fait, en long métrage, hein, qui restait inédit en France sur un support haute définition, puisqu'il il était sorti à l'époque, on pense se débarrasser de nos vieilles cassettes vidéo initiales. Ce film s'appelle Fast Company. Alors, c'est vrai que le film, c'est un film mineur dans la carrière de Cronenberg, mais c'est rigolo de le voir. Et la bonne idée, c'est de sortir en bonus, évidemment, parce que tout seul, le film a moins d'intérêt. Là, en fait, le film, il vient compléter, mais on va d'abord parler, il vient compléter Rage. On va d'abord parler de Rage, qui est un film de 77. Alors, on en avait déjà parlé dans cette émission au moment de la sortie chez The Extasio Film, mais c'est un film qui va mettre en vedette Marilyn Chambers. Alors, Marilyn Chambers, c'est la première pornstar, enfin, vraiment, une des premières pornstars, en tout cas, aux États-Unis, puisqu'elle va, Marilyn Chambers, elle incarnait quand elle était mannequin, jeune aussi, parce qu'elle est jeune aussi quand elle devient une pornstar, mais elle incarne, en tout cas, elle est l'égérie d'une marque de savon, donc elle est entrée dans tous les foyers américains, et puis elle va tourner, au début des années 70, dans Derrière la Porte Verte, film culte, film pornographique culte, et à partir de là, elle va acquérir un statut de star un peu à part, puisque justement, elle était connue, son visage était connu, il était sur les bouteilles de gel douche, tout ça et tout, enfin bref, du coup, elle était quand même très connue, et ça a beaucoup, elle incarnait en quelque sorte la propreté, et puis ça a beaucoup choqué les Américains à l'époque, et c'est ce qui a fait aussi son succès. Et Marilyn Chambers, c'est aussi une bonne actrice. Et là, elle a un accident, elle interprète Rose, elle est transportée dans une clinique spécialisée dans la chirurgie esthétique, elle est brûlée, et le médecin va expérimenter un type de greffe particulier. Il ne sait pas quelles vont être les conséquences, et nous, on va vite les découvrir, c'est qu'en fait, à son réveil, elle est quasiment identique à ce qu'elle était, hein, avant son accident, mais elle va avoir sous son aisselle une étrange plaie. Et elle va s'apercevoir qu'elle est devenue une sorte de vampire, et puis que son truc se propage là, et que c'est une épidémie qui va se répandre. Alors, c'est un peu foutraque, hein, c'est pas le film le plus maîtrisé de Cronenberg, et malheureusement c'est le film qui va pas permettre à Marilyn Chambers assez inexplicablement, mais je pense que la critique était pas prête, et le public lui pardonne pas du tout d'avoir été, d'ailleurs très peu sont les exemples de personnalités ayant débuté dans la pornographie qui ont réussi derrière à avoir une carrière dans le cinéma, comme on dit dans le milieu de la pornographie, tradi. Voilà, donc, et très, très peu ont réussi à avoir une carrière quand même. Hein. Et là, pourtant, elle ne démérite pas. Marilyn Chambers, elle est excellente. Elle est même, je veux dire, au centre de l'intérêt du film, parce que c'est elle qui porte tout le film sur ses épaules. Cronenberg ne s'est pas trompé du tout en l'embauchant. Il faut savoir aussi, petit truc rigolo, c'est que c'est produit par Ivan Reitman, mais Ivan Reitman produisait au Canada, à l'époque, il est canadien, Ivan Reitman, hein, comme Cronenberg, donc c'est le réalisateur des SOS Fantômes, de Jumeaux avec Schwarzenegger et tout, mais avant de se spécialiser dans la comédie, il était dans l'horrifique un petit peu, il avait même fait une comédie horrifique assez, enfin que moi j'aime bien, qui s'appelle Cannibal Girls, dans son début de carrière, et là, donc, on a ce film qui est... en fait, je trouve que Cronenberg, il est... Alors, le film est très bien, il est passionnant à voir. Hein. De toute façon, le Cronenberg des débuts, moi, c'est celui que je préfère. Mais je préfère Frisson, son film d'avant, qui, je trouve, est plus maîtrisé. Pourtant, Frisson, il a pas eu beaucoup de succès. Mais je lui préfère Frisson, que je trouve plus maîtrisé. Là, je trouve que là, Cronenberg, il veut partir sur plein de thèmes. Et en particulier, la mise en scène de Rage est plus maîtrisée, mais le scénario de Frisson est plus maîtrisé, et je trouve que Cronenberg, il n'est pas Romero qui veut, en fait. Il veut partir dans quelque chose de plus politique, et on sent bien que c'est moins son domaine de prédilection. Son domaine de prédilection, c'est la transformation des corps. D'ailleurs, il va faire son premier chef-d'œuvre, son prochain film horrifique, parce qu'entre deux, il y aura Fast Company, sera son premier chef-d'œuvre, sera Chromosome 3 avec Samantha Eggar, qui est vraiment un film incroyable. Et là, on sent qu'il a encore tout ça en brouillon et qu'il est meilleur dans l'intime, Cronenberg, que quand il veut être sociétal. Et là, je trouve que quand il va vers... quand il va vers la métaphore politique, ça tombe un peu à plat. Et moi, je préfère. quand on s'intéresse à la psyché torturée de la belle Marilyn. Hein. Et par contre, le film a aujourd'hui, parce que son côté épidémique et tout, fatalement, on compare ça à La Nuit des Fous Vivants, The Crazies de Romero, et ça ne tient pas à la comparaison. Quoi. Cet aspect-là, il est plus maîtrisé chez Romero. Et évidemment, le film a été après revu à la hausse parce qu'il y a un côté prophétique, c'est-à-dire que, un peu comme dans Frisson d'ailleurs, hein, Shivers, il y a ce côté aussi épidémie du sida qui va arriver. Mais enfin, on peut appliquer ça à tous les films de vampires, hein, mais comme chez Cronenberg, il y a ce côté un peu médical, on va dire, en plus. On sait que c'est une de ses passions. Donc, ça donne un aspect supplémentaire au film. Il va tâter après du film plus commercial, Cronenberg, c'est-à-dire qu'il va faire Fast Company sur les courses de drag racer, où on suit le quotidien de braves coureurs automobiles. Et alors, c'est un événement éditorial, hein, d'avoir ce film sur un support HD. Et il était invisible, hein, quasiment. Hein, il était sorti en VHS chez Initial. Il était disponible sur MyCanal, je crois. Mais bon, c'est un film vraiment mineur, hein, parce qu'il n'est pas question d'horreur, de fantastique, de corps tourmenté. Non, on est plutôt sur quelque chose. On décrit le quotidien d'une écurie de drag racers, de gens qui font des courses. On sent que, parce que ce qui est vrai, c'est que par contre, c'est un film de commande, mais Cronenberg, c'est un passionné de mécanique et de course automobile. Il l'a toujours dit. Voilà. Donc on est loin de Crash, hein. Crash chef-d'œuvre, hein, dont on a reparlé il y a quelques années lors de sa ressortie chez Carlotta aussi, je crois d'ailleurs. Et là, on est sur autre chose. On est sur quelque chose d'assez anodin. Alors on va retrouver John Saxon au casting. On va retrouver William Smith qui sera le papa de Conan le Barbare chez John Milius. John Saxon, on le présente plus. Il a tourné le shérif par exemple dans Freddy dans le premier. Voilà. C'est l'acteur de série B typique, voilà, qui était dans. Même dans les films de Mario Bava, il est partout, John Saxon. Et puis, il y a Claudia Jennings qu'on aime bien, qui va mourir assez jeune d'ailleurs, hein, qui va mourir dans la foulée de ce tournage-là, qui a été une Miss Playboy 70, et qui a été une actrice assez intéressante, qui aura un bon début de carrière dans le cinéma d'exploitation, puis qui malheureusement sera fauchée, en plus, triste prémonition, dans un accident de voiture. Voilà. Donc, là où le film est intéressant, le film est efficace, se regarde sans déplaisir. Hein. En gros, on a des courses, on a des scènes gentiment coquines, érotiques, avec les groupies qui veulent coucher avec les coureurs, tout ça et tout. Mais là où le film est intéressant, c'est dans la manière dont il présente le sport, vu comme un sport-spectacle, dans lequel on met en danger la vie de ces coureurs automobiles, dans lequel on les force à faire certaines choses qu'ils ne veulent pas faire, dans lesquelles on les manipule via du sponsoring pour certaines marques. Voilà, donc ça, c'est intéressant, c'est un discours un peu plus politique. Et il y a aussi une charge contre l'hypocrisie qui est assez drôle, parce que par exemple, pour moi, il y a une histoire d'huile, l'huile Fasto. Elle est tournée en dérision par un pilote parce qu'il y a un problème de placement de produit. Et puis le jour où l'affaire commerciale est réglée, il en redit du bien. Donc on a ce côté aussi qui est assez révélateur si on regarde aujourd'hui le monde du football, tout ça, la manière dont les sportifs de haut niveau gèrent leur communication. Ça, c'est assez intéressant, assez révélateur. Donc le coffret David Cronenberg contient Rage et Fast Company. Il est disponible chez Carlotta Film. Évidemment, pour tous les fans de Cronenberg, mais pas que, c'est un indispensable. Alors, autre indispensable, pour les gens nés en 74 comme moi, voilà, Dare l'Invincible de Don Coscarelli. Et oui, Don Coscarelli, on a beaucoup parlé de lui récemment parce qu'il y a eu pas mal de titres sortis par ESC. ESC poursuit son travail de réhabilitation de Don Coscarelli. J'aimerais bien qu'on sorte un jour ses premiers films qui sont pas très connus. Alors on peut les trouver sur le net, je vais pas vous mentir, hein, c'est comme ça que je les ai vus. Ses premiers films sur l'adolescence, tout ça, qui sont vraiment intéressants. Et là, sans doute, Dare l'Invincible, sans doute son film le moins personnel d'ailleurs, hein, qui sort dans une super édition chez ESC, avec le film en 4K, avec un documentaire rétrospectif énorme dans lequel on revient sur chaque détail avec tous les protagonistes du film, et puis un commentaire audio de Don Coscarelli, du co-scénariste, du producteur, enfin bon bref, tout ça est très très intéressant, et bah, ça a été je suis retombé en enfance, quoi, un gros kiff de revoir ce film étrange.
It was foretold by witches. It was conceived through sorcery. And it was to be destroyed by all that is evil. But the courage of one mortal saved it. A
And so, into an age of darkness, in a time of mysticism, sacrifice, and plunder, there came the only light, the Beastmaster.
C'est le fils du roi Jed. Il est capturé à sa naissance par les sorcières qui travaillent pour le sorcier Max. Max qui est un gros méchant, très méchant, qu'on croirait sorti de la caverne de la Rose d'Or de Lamberto Bava. Et il est sauvé par un paysan. Il va être élevé au contact de la plèbe. Comme ça, il va devenir quelqu'un de vraiment de respectueux de l'humanité. Voilà, de, quelqu'un de bon. Hein, naïvement bon, on va dire, voilà. Et puis les Jones, voilà, vont attaquer son village, ils vont massacrer tout le monde. Et Dar, bon bah, c'est le fils du roi en vérité, hein, donc il va se destiner à détruire le tyran, hein, à l'origine de tout ça. Alors ça vous rappelle peut-être un peu l'histoire de Conan, hein, ça ressemble un peu. Alors ils ont été tournés en même temps, donc on peut pas les. Mais Coscarelli reconnaît que c'était embêtant cette histoire de Conan qui sort et que ça a un peu du coup. Parce que son film fait à peu près 10 fois moins de budget que le Conan. Et ça se voit, hein, voilà. Donc, évidemment, ça a desservi son film. Et puis, petit à petit, bon, il va rencontrer des gens. Je ne vous raconte pas toute l'histoire. Il va rencontrer aussi une drôle de dame qui est peu avare de sa plastique, Tanya Roberts. Et il va rencontrer aussi d'autres personnes qui vont le suivre dans sa quête. Et il va aller affronter ce méchant, aider ses animaux, parce qu'il parle aux animaux d'art. Et oui, il communique avec les animaux. Et dont en particulier deux petits furets, moi, que j'adore, une panthère noire. Et c'est, je me dis d'ailleurs qu'ils étaient ouf parce qu'ils tournaient avec la panthère noire à 50 cm des acteurs et tout. Il n'y avait pas d'effet numérique.
Une panthère ou un tigre?
Alors,
tigre, hein.
Alors c'est, dans l'histoire, c'est une panthère noire, mais en vrai, c'est
un tigre pas en noir.
C'est un tigre pas en noir.
Ouais, je me disais, ça n'existe pas, les tigres noirs.
Moi, j'ai revu ce film avec ma nostalgie d'enfant. Et c'est très étrange, ce film, en fin de compte, parce que c'est un scénario de film pour enfants. Vraiment, c'est un scénario totalement naïf de film pour enfants. Il y a même des scènes clés qu'on retrouve dans tous les films pour enfants. Et à côté de ça, il y a des scènes érotiques. Il y a des scènes très cruelles, très gore, qui apparaissent comme des sortes de verrues sur le film, dans le bon sens du terme. Ce qui fait que c'est un film unique. Et on se dit que c'est une production... Enfin, c'est quasi impossible de reproduire ce type de production aujourd'hui parce que... Enfin, j'imagine bien... La terreur que ça, les parents qui emmènent les gamins à voir ça. Alors dans les années 80, ça semblait gêner personne. Ce genre de mélange très incongru. Et au final, alors Coscarelli, il sait faire. La photo est super belle. Et Coscarelli sait faire. Et il fait plus que sauver les meubles parce que, bon, parce que le film est un poil long. Mais quand on le regarde, moi, je prends mon pied. Alors, c'est un film que j'aime depuis l'enfance. Hein. Donc, voilà, enfin, depuis l'adolescence. Donc, du coup, c'est vrai que je l'ai revu avec un grand plaisir. Et puis, bon... Marc Singer, quand même, sorti de V. Hein. Quel acteur!
Et ce n'est pas de la pub pour des machines à coudre.
Jérôme, tu as très bien pointé le fait que Dar l'Invincible, c'est un film qui joue, qui danse sur ses deux pieds, c'est-à-dire que c'est un film qui voyeurise, grossier et sanglant, et que le fait d'avoir fait du héros à un dompteur, quelqu'un qui parle aux animaux, ça rajoute toute une dynamique assez enfantine, comme tu l'as dit, surtout avec les deux furets. En fait, ces animaux, c'est un des personnages à part, parce qu'on sait que dès qu'il a un problème, ils vont venir l'aider. Ce qui fait que quand on agrandit son groupe avec des vrais humains, on peut se demander, mais ça sert à quoi? Il a déjà le... la panthère noire qui est un tigre peint en noir.
et surtout, ce que je n'ai pas dit, il a un oiseau de proie, une sorte d'aigle, qui lui permet d'avoir la vision de l'aigle. Ça donne des très belles scènes d'ailleurs, hein, parce qu'à l'époque, on filmait pas avec des drones, où l'aigle s'envole au-dessus comme ça des montagnes. Il peut savoir ce qui se passe chez l'ennemi.
Chez les fans d'Indiana Jones, ça c'est quelque chose que vous retrouvez justement, ou dans certaines versions, vous pouvez avoir la vision de l'aigle. Je ne sais pas si c'est lié, mais il y a quand même le flou que donne quand il regarde de l'aigle, c'est un peu le même que tu as dans le jeu vidéo. Tu as ces furets, aigle suffisamment puissant pour pouvoir porter des choses, notamment des enfants pour les sauver d'une situation extrêmement dangereuse. Alors, Marc Singer, tu as évoqué le fait qu'il avait joué dans V. Alors, j'ai jamais vu la série originale, j'ai seulement vu le remake. Moi, par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'il a doublé dans la série animée Batman. Parce qu'il faisait Man-Bat, donc un homme qui est lié aux animaux, comme dans Dar l'Invincible. Je ne sais pas si c'est lié, mais c'est assez drôle. Le reste du casting en soi, à part Rip Torn qui joue Max, qui est un acteur qui est celui qui a eu le plus gros succès du film, voilà, les acteurs, ils font ce qu'ils peuvent. Max, il arrive quand même à voler pas mal l'écran. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'épique dans son film, c'est-à-dire que c'est un film qui fait 2 heures. un peu long, mais qu'on va avoir tout ce qu'on va retrouver plus ou moins justement dans Conan, c'est-à-dire qu'on va avoir un culte, on va avoir une religion, on va avoir des monstres, les monstres avec les ailes de chauve-souris, ils sont terrifiants, et on va avoir des moments où on va avoir justement ces grands paysages qui vont être notamment montés à travers les yeux de l'Aig. C'est un film... C'est un peu particulier parce que oui, quand on le voit, on a envie de dire qu'il vogue sur la vague de Conan, mais comme tu l'as dit, il est avant, ça se voit qu'il est fauché. Au tout début, il y a des moments où la lumière et l'étalonnage, ils changent d'un plan à l'autre. Mais je trouve qu'il y a une sincérité dans ce qui est fait par Don Cascarelli, et c'est une sincérité qu'on arrive à ressentir.
Ah bah moi, je l'ai vu en salle aussi, ce film, à l'époque. Hein. J'étais très, très excité à l'idée d'aller voir Dar l'Invincible. C'était un événement à l'époque. Et c'est vrai que c'est un film assez bizarre quand on le voit quand on est jeune, quand on est très jeune. Parce qu'il y a des passages assez glauques, n'est-elle pas le terme, mais je pense à ce couloir avec, où il y a des monstres de chaque côté qui ont des espèces de gants griffus. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut passer, ils passent leurs mains pour attraper les gars et les déchiqueter. Et je trouve que c'était une idée assez étrange à l'époque. Et ça m'avait marqué aussi. Au début, il y a deux moines qui se pendent. On ne sait pas pourquoi. C'est assez étrange. Et c'est vrai que c'est un film qui marque parce que censé être s'adresser au grand public. Mais c'est vrai qu'il y a des passages qui sont incongrus, on va dire. Mais bon, c'est un film qui est quand même un peu... C'est parfait pour un double programme Kalidor Dar l'Invincible, quoi. C'est parfait pour ce genre de soirée, quoi.
Si le film nous plaît quand même autant que ça, je pense que c'est dû au fait qu'il y a Don Coscarelli derrière la caméra. Don Coscarelli, enfin... Si on fait le retour sur sa carrière, on a quand même parlé beaucoup de fois de ces films là récemment qui ont été pas mal mis en valeur ces dernières années par ESC. C'est quand même un artisan et même un auteur sur certains de ses films, mais un artisan doué pour tirer énormément de qualité de tout petit budget, quoi. Voilà. Et alors, effectivement, c'est aussi l'inventeur de la série des fantasmes, et le premier fantasme est juste extraordinaire. C'est un très, très grand film horrifique de flip, vraiment un grand film. Il n'a jamais retrouvé ça après, mais il a quand même une belle filmographie, Don Coscarelli. Donc, moi, je vous conseille vivement, parce qu'en plus, voir ce film en 4K, c'est quand même... assez extraordinaire, quoi. Moi, il est mieux qu'au cinéma, en fait, maintenant, quand je le regarde chez moi, dans ma petite salle ciné. Là, je le vois dans de meilleures conditions qu'au cinéma à l'époque, quoi. Donc, on vous le conseille vivement. Ça s'appelle Dar l'Invincible. C'est signé de notre ami Don Coscarelli. On fera peut-être une spéciale Don Coscarelli un jour, d'ailleurs, parce qu'il y a plein de films de lui qu'on connaît pas en France. Et c'est sorti chez ESC.
Culture prohibée. Thank you.
2SC, je vais aller chez Rimini. En Rimini, il semblerait qu'en ce moment, ils se mettent au précurseur de la folk horror. Et moi, j'ai découvert un film. Alors, c'était un hit de Vidéoclub, paraît-il, mais j'étais passé à côté hein, quand j'étais... Pourtant, les Vidéoclubs, j'en ai écumé des Vidéoclubs. Je peux vous dire que j'en ai loué des films. J'étais cinéphage avant d'être cinéphile. Et donc là, je vais vous parler d'un film qui s'appelle « Les yeux de feu ». De Avery Crowns, qui est un film, vraiment un film culte, hein, avec Donnie Lipscomb, Guy Boyd, Rebecca Stanley, qui est vraiment un film culte pour les amateurs de folk horror, qui après The Wicker Man, souvent le mettent en deuxième dans l'ordre chronologique des films importants de la folk horror dans l'histoire de ce sous-genre, qui a été remis au goût du jour ces dernières années, mais dont on a un peu parlé dans l'émission d'ailleurs. Il y a des films comme Midsommar, par exemple, d'Ari Aster. Mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien la folk horror. Hein. Voilà, j'avoue que cet alliage entre le côté naturaliste, des décors verdoyants, et puis le côté mystère, secte, le côté tribal presque, et puis le côté impie aussi de certaines pratiques. Voilà. Bon, ce sont des choses qui m'intéressent énormément. Et là, le film d'Avery Crowns, c'est une vraie découverte pour moi. Et je suis très content que Rimini l'ait sorti. À signaler que Rimini va persister, parce que là, ils vont sortir un film que j'ai déjà vu, que j'aime bien aussi, un film de Pierce Haggard qui s'appelle « La nuit des maléfices ». Un film de 71, donc c'est un des films aussi, un des jalons importants dans l'histoire de la folk horror. Donc on en parlera, c'est même un film « La nuit des maléfices » qui a été tourné avant le chef-d'œuvre de la folk horror, le film culte de la folk horror, « The Wicker Man » de Robin Hardy, et aussi le bon film de Robin Hardy, parce que le reste de sa filmographie, il n'a jamais retrouvé l'état de grâce qu'il avait pour The Wicker Man, mais on a déjà beaucoup parlé de The Wicker Man dans l'émission. Et là, donc, je vais vous parler de Ces yeux de feu, Les yeux de feu de Avery Crowns, qui est un film de 83 et qui est un film qui se passe en 1750. On est à la frontière américaine, c'est l'époque coloniale, et il y a un pasteur qui visiblement a une emprise assez forte sur pas mal d'habitants d'un village. Et puis surtout, il a des mœurs assez légères. Et il va se retrouver chassé d'un village pour adultère. Il va partir avec sa petite confrérie. Et il va se rendre dans une région inexplorée d'Amérique du Nord. Et il va trouver un endroit pour s'installer. Le problème, c'est que c'est un endroit maudit. Voilà. Et à partir de là, il va subir les assauts d'une bien étrange sorcière. Parce que le film a un côté presque écolo avant l'heure. Et le film est littéralement fascinant. Ce n'est pas les meilleurs acteurs du monde, ce n'est pas le plus gros budget de l'histoire du cinéma, mais le film est littéralement fascinant. Il a une esthétique très particulière, avec des effets spéciaux bricolés. Et par exemple, cette sorcière avec cette, en forme d'arbre, avec ses visages dessus, ça suinte un peu. Il y a aussi un enfant qui se change en démon dans une scène très particulière avec des... Il utilise des transparences. Enfin, c'est des effets spéciaux presque à la Méliès qui confèrent du coup au film une identité singulière. Et puis, il a un bon scénar, quoi. C'est-à-dire que le film est vraiment mystérieux, le film est vraiment angoissant. Petit à petit, la situation de cette communauté se dégrade. Il y a des mauvais présages au départ et petit à petit, tout se dégrade. L'influence de ce pasteur... petit à petit, dans ce pasteur, on se demande s'il a des pouvoirs. Mais en fait, dans la troupe, je sais bien qu'il n'y a pas de jambes de bois, mais il y a aussi vraiment un personnage qui a des pouvoirs. Je ne vous en dis pas plus. Alors, le film est vraiment particulier. Il a vraiment une atmosphère unique, comme tous les bons films de folk horror, dans laquelle vous vous laissez nimber, envahir cette histoire de colons menacés par des démons étranges, des démons de la terre, presque des démons indiens. C'est vraiment étonnant. C'est comme si Mère Nature se vengeait. Il y a des visions dans le film qui sont vraiment singulières. Et alors, le film est bien décortiqué. Il y a un livret de Marc Toulek qui décortique bien toute l'histoire autour de ce film. Parce que, et la copie est magnifique hein, qui nous est donnée à voir. Le film jouit vraiment d'un culte. Il suffit d'aller se balader sur le net. Le film jouit d'un culte qui est mérité. Alors, il faut savoir qu'il y a un bonus.
Je vous ai parlé du commandeur, il y a des entretiens, il y a tout ça, il y a le livret de Marc Toudeck, mais il y a un bonus qui est un bonus extraordinaire, qui est la version initiale du film. Alors, le master est moins beau que la version définitive, hein, mais c'est quand même fait à partir du 2K. Donc, on a encore un peu de scratch sur la pellicule et tout, mais c'est quand même propre, vraiment propre à regarder, qui s'appelait Crying Blue Sky. Et on a en droit de préférer, en fait, le titre original, Crying Blue Sky, qui correspond mieux à l'histoire, en fait, voilà, à ce qui va se dérouler dans le film. Et faut savoir que c'est un film, c'est un peu comme Robin Hardy, hein. Avery Crowns, c'est plutôt un photographe de talent, hein. Et il va faire que 3 films, et ce film va vraiment rester le film où tout le monde va attendre qu'il fasse le nouveau, une nouvelle version de ce film, ce qu'il ne reproduira jamais d'ailleurs. Et donc du coup, ça, c'est un peu le film qui va vampiriser le reste de sa courte carrière. Et Crying Blue Sky, ce qui est intéressant, parce que le film, c'est un flashback en fait. Et au départ, c'est des survivantes qui vont rencontrer des militaires et qui leur racontent ce qu'elles ont vécu. Et dans la version originale, qui est un poil plus longue, il y a plus de dialogue, mais surtout, elles ne vont pas se confier à des militaires, elles vont se confier à des prêtres. Ce qui change beaucoup de choses quand même dans la compréhension du film. Donc c'est un atout. Moi, je l'aurais peut-être gardé. Voilà. Mais en tout cas, et c'est le réalisateur qui a choisi de modifier son film. Il le trouve plus efficace dans sa version définitive. Bon, en plus, étant fan de western, je dois bien dire que toute la première partie du film évoque plus un western. Donc c'est pas pour me déplaire non plus. Donc ce western va virer petit à petit. Il n'y a pas beaucoup de westerns qui virent au cauchemar comme ça. Il y a Le Vorace d'Antonia Bird, il y a Bone Tomahawk de Craig Zahler. Alors les histoires sont pas du tout les mêmes, hein, mais en tout cas, je veux dire, ce film s'inscrit dans un sous-genre, à la fois la folk horror, mais aussi un peu le western horrifique. Et donc ça s'appelle Les Yeux de Feu, c'est de 83, c'est de Avery Crowns, l'édition de Rimini est assez définitive, donc je vous le conseille vivement. Je vais aller beaucoup plus loin dans le temps, je vais vous parler d'un film qui est sorti chez BQHL, Monster Man de Michael Davis. Alors Michael Davis, c'est quelqu'un qui vient de la sexy comédie américaine, de ses films potaches, des films pas sortis en France. Hein. Il a fait 8 Days a Week, 100 Girls, Girl Fever, enfin des films avec un humour plutôt en dessous de la ceinture, paraît-il, pour ceux qui les ont vus. Et ceci explique certainement la première partie de Monster Man. Ce Monster Man, quand il est sorti, il a déclenché, je me rappelle, hein, il avait tout de suite acquis une aura de petits films cultes. À la revoyure, j'ai quand même été, j'avoue, un peu déçu, hein, quand je l'ai revu là. Je l'avais vu à l'époque, il avait eu des critiques plutôt bonnes, parce qu'en fait le film, bon, dure 1h40. Alors c'est vrai qu'il va nous donner à voir, c'est un film qui a fait son effet, hein, lors de sa sortie. C'est sans doute aussi parce qu'au milieu du fatras de blockbuster qui sortait à ce moment-là, il y avait Les Seigneurs des Anneaux, il y avait des trucs, Les Pirates des Caraïbes, il y avait des trucs blindés d'effets numériques, qui fatiguaient les spectateurs, il y avait les Underworld, il y avait tout ça. Il y avait eu, au milieu de toute cette vague, une résurgence de série B et une résurgence du slasher. Il y avait à peu près à la même époque la sortie de Détour mortel de Rob Schmitt, parce que je rappelle qu'avant de devenir une suite de série Z, au départ, c'est plutôt un très bon slasher, le premier film de la saga. Et quelque part, il faisait un peu la synthèse aussi entre un film un peu oublié de John Dahl, très efficace, une série B qui s'appelle Une virée en enfer, et donc le film de Rob Schmitt, hein, le Détour mortel, même si c'est très certainement involontaire, parce que je pense que les films ont été tournés en même temps, ils sont sortis à peu près en même temps. Et la bonne idée du Monster Truck, c'est de faire que le tueur, il utilise justement un Monster Truck. Donc il est dans un Monster Truck très particulier avec un look singulier. Alors certainement que l'auteur avait vu Mad Max, mais c'est pas grave, ça donnait un look bien particulier. Et alors franchement, le film, bon, je trouve qu'il est un peu perdu de sa superbe, vous l'avez compris, parce qu'il y a les 50 premières minutes d'humour potache. On est dans ce qu'on appelle la comédie débile, hein, on en a déjà parlé dans cette émission, mais ça ne retrouve jamais la grâce et l'émotion que peut avoir, par exemple, la comédie débile chez Judd Apatow. C'est-à-dire que tout est en dessous de la ceinture. Il y a deux types qui se rendent à un mariage. L'un des deux types, alors c'est des post-ados, l'un des deux types aime en secret la fille qui va se marier. Donc il faut qu'il aille lui dire le jour de son mariage, patati patata, et on passe son temps. Puis alors, à un moment, ils vont prendre en stop une autostoppeuse, une jolie blonde dont on devine nous tout de suite que c'est pas possible qu'elle cache quelque chose, et ils vont terminer dans l'antre du tueur. Mais là où le film
garde quand même des qualités, c'est dans sa deuxième partie. Parce que le film a quand même ça de particulier, que tous ces types se baladent dans des coins reculés des États-Unis où tout le monde est amputé. Ils vont dans des bars, tout le monde est amputé, il manque des jambes, il manque des bras. C'est hyper glauque. Bon, on devine bien que ce gars qui se balade en monster truck a dû en découper plus d'un. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Et on va virer vers le crade, vers le dégueulasse, vers vraiment le grand guignol, jusqu'à un final à la fois grand guignol, vraiment grand guignol, parce que très gore, mais en même temps marrant. Hein, voilà, que peut-être ne renierait pas le réalisateur du dernier film dont on va parler aujourd'hui, un certain Damien Léon. Voilà. Donc, Monster Man, c'est le haut de la série B horrifique du début des années 2000. C'est signé Michael Davis, c'est un film de 2003 de BQHL. Mais je trouve quand même que le film est déséquilibré à cause d'une première partie comique un peu trop longue, pourtant entrecoupée de quelques scènes flippantes, mais pas assez. Mais alors par contre, dès que ça bascule dans l'horreur, vous allez être en terrain conquis, les amis. On va terminer, chers amis de la poésie, la franchise horrifique, certainement aujourd'hui la plus rentable dans le monde, vu que les films coûtent 3 dollars et 2 cents, c'est la série des Terrifiers. Et là, le Terrifier 3, qui avait éclaboussé les salles en 2024, débarque chez ESC. Alors ESC les sort au cinéma, ESC les sort aussi en Blu-ray, en copie superbe. Alors, Terrifier 3 en 4K, c'est un délire gore, sexe, crasse pec. En 4K, c'est quand même assez dément de voir ça. Je pense que même Damien Léon, quand il fait ses premiers films avec Art le Clown, il ne s'imagine pas qu'il finira en 4K avec un succès mondial dans les salles. Tant mieux pour lui, parce que ça revigore un peu le cinéma d'horreur. Et on est bien content. Moi, personnellement, je suis bien content. Même si je ne suis pas le plus grand fan qui soit de Damien Léon, je reste quand même assez subjugué par cette série de films, en particulier le 2 et le 3. Et en plus, il va y avoir un quatrième, là, c'est sûr, hein, parce que le 3 est clairement un film de transition. Voilà, avec la belle Lorraine Lavera, qui est une sorte de Valkyrie. Là. Bon, là, elle est un peu fatiguée, elle ne va pas bien. D'ailleurs, c'est la rare intelligence du script, parce que dans la plupart des séries de films d'horreur, ils vivent tous des trucs horribles, et le lendemain, ils reprennent leur vie normale. Non, là, elle a fini en HP. Après le deuxième, c'est un peu logique. Elle a fini en HP, et elle ne va pas bien du tout. Hein. Donc, elle essaye de réintégrer ce qui reste de sa famille. Mais évidemment, Art le Clown est l'une de ses anciennes victimes qui est devenue son bras droit. Pour vous donner un peu une petite idée, comme ça, qui se masturbe avec un couteau, c'est horrible. Voilà. Il est taré, hein, Damien Léon, il faut le dire. Je pense qu'heureusement qu'il fait du cinéma. Sinon, je ne sais pas ce qui se passerait aux États-Unis. Donc, parce que c'est 2h06 quand même, hein, non-stop, de gore, craspec et tout, c'est assez impressionnant. Et donc là, elle ne va pas bien, elle essaye de réintégrer sa vie familiale. Et en parallèle, évidemment, il y a Art le Clown avec Nouveauté, donc sa complice, qui lui est increvable, décidément. C'est devenu une sorte d'émule de Michael Myers, mais en plus taré. Et ma foi, les amis, ça donne un vrai film d'horreur, un vrai film cathartique, et vraiment indescriptible, quoi. C'est un maelstrom de gore. Et puis en plus, même s'il y a de l'humour, beaucoup d'humour, ça va très loin dans le craspec et dans la perversité, quoi. C'est vraiment une série assez unique, en fin de compte. C'est en train de s'imposer comme une série unique.
J'ai beaucoup d'amour pour Terrifier. Comme Jérôme l'a mis en avant, c'est l'une des sagas les plus originales d'horreur née dans les années 2010 avec son nouvel increvable qui est Art le Clown, qui est vraiment très simple mais absolument terrifiant comme personnage. Autre chose que fait la saga, c'est vraiment que les films se suivent, ce qui n'est pas toujours le cas avec les films d'increvable, mais à chaque fin de volet, généralement la différence, elle se fait que de quelques années. Ici, pour ce troisième volet, on retrouve Sienna et son frère qui avaient réussi à le vaincre dans le deuxième film, dans un style un peu à la Massacre à la tronçonneuse, où finalement, on changeait beaucoup de l'environnement qu'on avait du premier. Mais ça, c'est normal. Avec le succès du premier, Damien Léon a eu beaucoup plus de possibilités. Et il s'en est donné à cœur joie dans le deuxième. En France, il a eu énormément de succès, ce troisième volet, avec sa sortie en salle, en partie à cause de l'interdiction qui l'a fait passer en moins de 18 ans, ce qui est en fait, si je ne me trompe pas, le deuxième fois où ça arrive en France pour un film non pornographique après Saw 3, qui est aussi une licence que j'adore. Donc, les licences que j'adore, au bout d'un moment, elles sont passées en moins de 18. Personnellement, je trouve le troisième moins violent que le premier. Ouais, oui. Je vois toi qui me fais les grands yeux. Moins violent que le premier et que le deuxième. Pour moi, la scène la plus violente qu'on a dedans, c'est l'explosion dans le centre commercial qui est drôle et en même temps absolument horrible. Il reste imaginatif et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il continue à creuser le lore de Art le Clown qui est maintenant assurément une entité infernale qui renforce son aura justement d'icône maléfique du cinéma d'horreur. Il rajoute des trucs en plus, par exemple là un truc tout bête, mais le fait de lui ajouter à Art cette fois une assistante qui est aussi terrifiante, même maquillage, plus jeune mais avec le sourire constant, hein, tout est dans les dents, ça fait peur.
Le final de Terrifier 3, il est quand même bien dégueulasse. Mais alors, il va vraiment très loin dans la. Il malmène ses personnages. J'ai rarement vu des films où un réalisateur il malmène autant ses personnages, quoi. En plus des personnages qui prend le temps de développer, etc., auxquels on s'attache. Et là, il va vraiment très loin et c'est vraiment dégueulasse.
Ça s'appelle Terrifier 3, signé de Damien Léon. Vous êtes déjà fan, on le sait, puisque si vous écoutez l'émission, c'est que vous aimez le cinéma horrifique et que c'est une des franchises les plus stimulantes du moment. C'est sorti chez ESC. Et donc, on vous le conseille vivement, parce que voir autant de tripailles en 4K UHD, c'est pas tous les jours que ça arrive. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Domédy, La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomanien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.